sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Merci, Monsieur le Président, de ces paroles d'accueil. Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand honneur pour moi de parler devant vous. Je suis très impressionné, intimidé par l'invitation que vous m'avez adressée. Je vous salue tous avec beaucoup de respect et je salue tout spécialement mon frère et ami, le grand rabbin Chaim Korsia, en renouvelant, comme j'imagine vous le faites tous, mes voeux de Shana Tova. Avant de commencer à partager avec vous les réflexions que j'ai essayé de formuler, je voudrais évoquer d'un mot la mémoire de Patrick Devedjian, qui devait intervenir aussi, je crois, dans cette série de conférences sur le pouvoir, dont j'ai célébré les obsèques au cimetière d'Antony au début du mois de mars, pendant que la crise sanitaire commençait son œuvre féroce. Et je présiderai vendredi à la cathédrale de Nanterre une messe en rite arménien, à laquelle je crois d'ailleurs certains d'entre vous seront présents. Et je souhaitais, avant de prendre la parole, évoquer la mémoire de cet homme engagé, enraciné et à l'esprit particulièrement vif, la conversation particulièrement stimulante. Donc, en réponse à votre invitation, je vous propose quelques réflexions intitulées, pour synthétiser la formule joannique, un pouvoir reçu d'en haut, point d'interrogation. Pour introduire ce propos, je me propose de revenir un peu à la formule cardinale de la laïcité, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Cette formule de Jésus, que l'on retrouve dans les trois évangiles synoptiques, entrée dans le langage commun, sécularisée, par le langage commun, est habituellement considéré comme l'alpha et l'oméga de la doctrine chrétienne, voire républicaine, de la laïcité. Cet enracinement évangélique de la laïcité républicaine instaure une dialectique paradoxale, potentiellement féconde, mais parfois conflictuelle. C'est de ces racines chrétiennes, expression souvent perçue comme polémique aujourd'hui, que la République laïque reçoit ce qui lui permet de s'affranchir de la tutelle du pouvoir spirituel, notamment catholique. Mais cet affranchissement poussé à son terme, comme il semble l'être de plus en plus en notre époque hyper sécularisée, fragilise en fait la laïcité, privée de son socle et de son enracinement fondateur. On connaît la célèbre formule de Carl Schmitt, père discuté de la théologie politique. Tous les concepts prégnants de la théologie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. Le concept de laïcité constitue comme le paradigme de cette théologie sécularisée sous-jacente à notre modernité politique. On songe aussi à la formule de Marcel Gauchet sur le christianisme religion de la sortie de la religion. Il faut une religion pour qu'on puisse en sortir, mais si la religion venait à disparaître, comment maintenir cette dynamique de sortie qui, comme telle, permet l'avènement d'une juste laïcité? Voilà qui rejoint la thèse récente de Jérôme Fourquet dans son Archipel français. Un certain effacement, c'est le moins qu'on puisse dire, contemporain du christianisme, prive la France laïque de ce qui permettait, en fait, son unité. Pas de France républicaine, pas d'État moderne sans laïcité, mais pas de laïcité, en un sens, sans référence chrétienne, vivante et agissante. Voilà une des données de la crise politique, sociale et culturelle que notre pays traverse aujourd'hui. Peut-être a-t-on cependant tendance à surinterpréter, voire à mésinterpréter cette formule évangélique « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, en l'isolant de son contexte immédiat et du reste des Écritures, au risque d'une sorte de fondamentalisme interprétatif sécularisé, ainsi aussi qu'en forçant son parallélisme formel. Que s'agit-il de rendre à César dans ce passage des Évangiles ? L'impôt, et seulement l'impôt. Et que faut-il rendre à Dieu ? Tout. Parce que pour les croyants, tout vient de lui et tout est pour lui. C'est le sens de l'invitation de saint Paul au début de l'ultime partie, parénétique, paraclétique de sa lettre aux Romains, son traité théologique et spirituel le plus achevé à destination des nations. Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice, vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. César et Dieu ne sont pas sur le même plan, ne relèvent pas du même ordre, pour reprendre l'indispensable distinction pascalienne. César a été créé par Dieu, à son image et à sa ressemblance, comme tout homme. Le Christ a sauvé César en donnant sa vie en rançon pour la multitude à laquelle César appartient. Le péché originel de César et de tout pouvoir politique, comme de tout homme, serait de se prendre pour Dieu. Une autre rapidité interprétative discutable serait d'identifier immédiatement Dieu à l'Église. Le cardinal Lustiger, que vous avez évoqué, Monsieur le Président, était particulièrement sensible à ce thème. Prenant la parole lors d'un colloque intitulé « Jean-Marie Lustiger, cardinal républicain », titre délibérément paradoxal, Jean-Luc Marion a déclaré « Le cardinal a beaucoup insisté sur le fait qu'il ne faut pas confondre le rapport de César et de Dieu avec le rapport de l'État et de l'Église. Il avait coutume de dire que d'une part, l'État ne peut rien demander aux croyants qui doit tout à Dieu, mais que d'autre part, l'Église n'est pas dans une situation de rivalité avec l'État, dont un ordre la sépare. Bien plus, l'Église n'épuise pas non plus à elle seule la présence de Dieu dans la société. L'Église n'épuise pas à elle seule la présence de Dieu dans la société. Pour les catholiques eux-mêmes, Dieu est présent dans sa création comme telle, ce que les scolastiques appelaient sa présence d'immensité. Il rejoint de façon plus ou moins voilée la conscience de tout homme, que le Concile Vatican II présente comme le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. L'Église ne prétend donc pas détenir l'exclusivité immédiate de la relation des hommes avec Dieu. Elle n'est, pour reprendre une autre formule innovante du Concile Vatican II, que le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. La dialectique de César et de Dieu est d'autant plus éclairante qu'elle est ramenée à sa juste mesure. Comme tout le Nouveau Testament, cette dialectique ne peut être interprétée de manière authentique qu'à partir de la première alliance qui la précède et qui la porte. C'est avec réticence que Dieu finit par donner un roi à son peuple. Je parle sous le contrôle du grand rabbin. Le peuple qui veut, d'une certaine manière, s'aligner sur les nations païennes en ayant son propre chef temporel. Il y a une sorte de tentation idolâtrique dans la revendication royale du peuple d'Israël. C'est le sens de la parabole des arbres qui veulent se donner un roi dans le livre des juges, qui précède les chroniques royales, pour le coup, des livres de Samuel et des rois. Je ne résiste pas à la tentation de vous lire ces quelques lignes si expressives. Un jour, les arbres se mirent en campagne pour se donner un roi et le consacrer par l'onction. Ils dirent à l'olivier, « Sois notre roi !» L'olivier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon huile qui sert à honorer Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ?» Alors les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, sois notre roi !» Le figuier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à la douceur et à la saveur de mes fruits pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ?» Les arbres dirent alors à la vigne, « Viens, toi, sois notre roi !» La vigne leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ?» Alors, tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, sois notre roi !» Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous me consacrez par l'onction pour être votre roi, venez vous abriter sous mon ombre, sinon qu'un feu sorte du buisson d'épines et dévore jusqu'au cèdre du Liban. » Avoir un roi constitue en quelque sorte une fausse bonne idée pour le peuple de Dieu, car son roi véritable, son seul roi pleinement légitime, c'est Dieu lui-même. Le roi que le peuple va se donner risque de le dévorer comme le buisson de ronces, de l'asservir en prétendant remplacer Dieu. C'est d'ailleurs ce qui se passe à ce stade de l'histoire quand surgit un conflit entre Abimélec et les notables de Sichem. Les rois en Israël ne seront légitimes que s'ils ont conscience d'être, comme le peuple, appelés à obéir à la loi de Dieu qui les précède et les dépasse. Il y a une sorte d'esquisse démocratique dans cette insistance biblique sur la pleine appartenance du roi au peuple qu'ultimement Dieu et Dieu seul conduit. Voilà ce qui justifie la présence et la parole des prophètes auprès des rois. Sans eux, les rois ne seraient pas pleinement à leur place. Les prophètes incarnent la nécessité pour les rois de ne pas se considérer comme les fondateurs de leur propre pouvoir, comme l'alpha et l'oméga de leur dignité royale. Nathan, avec David, Élie, avec Achab, Isaïe, avec Achaz, de façon parfois conflictuelle, parfois fraternelle, mènent un dialogue fondateur et salutaire pour l'institution royale. La plupart des sociétés, notez-vous, monsieur le secrétaire perpétuel, dans votre dernier livre, ont été pendant longtemps gouvernées par des dieux-rois ou des rois-prêtres, pharaons, souverains mésopotamiens, empereurs romains, aztèques, incas, de Chine, rois africains, etc. Une des nouveautés bibliques décisives réside dans la distinction et l'interaction libératrice des fonctions royales, prophétiques et sacerdotales. C'est le dialogue biblique entre prophète et roi qui culmine dans la rencontre entre le Christ et Pilate, au seuil du cœur de la Passion, durant le procès romain de Jésus. Le représentant de César pense juger le Fils de Dieu, mais c'est en réalité ce dernier qui le juge, au sens le plus fort et théologique du terme. Tous les dialogues anciens et à venir entre rois et prophètes culminent et se dénouent dans cette rencontre d'une intensité extraordinaire. Entre celui que les chrétiens reconnaissent comme le Messie d'Israël et le représentant du chef temporel par excellence des nations païennes. Le « rendez à César » ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu a besoin du déploiement de cette conversation dramatique pour être saisi dans toute sa richesse et toute sa portée. Voilà pourquoi je vous propose d'en parcourir trois étapes particulièrement significatives, de reprendre trois déclarations de Jésus, d'autant plus précieuses, qui cultive, vous le savez, le silence durant son procès. « Ma royauté n'est pas de ce monde », Jean 18, 36. « Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité », Jean 18, 37. « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut », Jean 19, 11. Ces trois affirmations du Christ posent les questions décisives du rapport entre le pouvoir et l'eschatologie, le pouvoir et la vérité, le pouvoir et son fondement ultime. Je conclurai en essayant de formuler quelques propositions pour notre situation contemporaine. Alors d'abord, ma royauté n'est pas de ce monde, Jean 18, 36. Pilate interroge Jésus sur son identité de roi des Juifs, titre qu'il lui reconnaîtra finalement, puisqu'il le fera inscrire sur la croix en hébreu, grec et latin, apportant une fin de non-recevoir à ceux qui voudraient qu'il fasse enlever l'écriteau, qu'on retrouve d'ailleurs sur tous nos crucifix. C'est le quod scripsi scripsi, saisissant du chant grégorien de la Passion, une manière peut-être pour Pilate de ne pas en rester à la lâcheté du lavement de ses mains. Avant cela, au moment même de son procès, Jésus donc répond « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » En se démarquant, à ce stade ultime de sa vie et de sa mission, de toute ambition immédiatement politique, voire révolutionnaire, Jésus confirme le message constant de son ministère public. Après la multiplication des pains, l'exemple est particulièrement significatif, Jésus perçoit que son aura peut susciter un total quiproquo. Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. C'est dans ce contexte que Jésus donne une grande catéchèse eucharistique, en se présentant comme le pain de vie, par son corps livré, par sa vie offerte et non pas immédiatement triomphale, pour le salut du monde et non sa domination, pour la libération de la mort et du péché. L'Eucharistie, célébrée, anticipe pour les chrétiens et annonce le festin éternel des élus dans la gloire, tout en rappelant que le temps présent ne fait qu'acheminer vers les joies de l'éternité. Nous sommes in via, comme le rappelle souvent saint Augustin, et pas encore in patria. Ce discours de Jésus sur le pain de vie dans la synagogue de Capharnaüm suscite incompréhension et déception. Au point, c'est un des moments les plus poignants du ministère public de Jésus, que beaucoup cessent de le suivre. Alors Jésus dit aux 12 : « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ce qui fonde la persévérance et la foi de Pierre et de tous ses successeurs après lui, c'est la perception de la perspective eschatologique de l'œuvre de Jésus, qui n'est pas venue pour bouter le Romain hors de Terre Sainte, mais pour ouvrir à tous les hommes les portes de la vie éternelle. À l'inverse, la trahison de Judas, annoncée dès le verset suivant, apparaît comme résultant de cette déception, qu'engendre la distance de Jésus par rapport à toute réussite immédiatement mondaine et temporelle. Judas trahit parce qu'il se sent trahi par la perspective seulement eschatologique de celui à qui il avait pensé pouvoir confier son salut et sa réussite temporelle. L'œuvre du Christ, pour autant, n'est pas coupée des choix temporels, qui préparent bel et bien l'entrée dans la vie éternelle. Mais le triomphe royal annoncé du Christ ressuscité n'est pas d'ordre d'abord séculier. C'est le message de la grande fresque eschatologique de la fin de l'Évangile selon saint Matthieu. Ce qui a été fait au plus petit sur terre a été fait au Christ lui-même. C'est d'ailleurs l'Évangile qui sera lu à la messe pour Patrick de Véjean vendredi, comme il a été lu à la demande expresse de sa famille pour les obsèques de Jacques Chirac il y a tout juste un an. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Reste que cette identification salvifique entre Jésus et les plus pauvres n'apparaîtra en pleine lumière que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous ses anges avec lui. Cette réserve eschatologique de la foi chrétienne est peut-être plus fondatrice encore pour un juste rapport aux politiques que le renvoi apparemment dos à dos de César et de Dieu. De même que la théologie biblique de la création établit et une relation et une distance entre le Créateur et la créature, ouvrant le champ de l'exploration scientifique et de l'exploitation économique, de même, la théologie chrétienne de l'histoire donne une perspective à l'aventure humaine tout en dégageant le terrain du discernement et de l'action politique libre. Dans son dernier livre publié, avant qu'il ne devienne le pape Benoît XVI, le cardinal Ratzinger, votre confrère, écrit « La politique n'instaure pas le royaume de Dieu, mais elle doit sûrement se préoccuper d'assurer un règne de l'homme qui soit juste. Cela veut dire créer ce qui est nécessaire à une paix intérieure, extérieure et à la justice, afin que tous puissent, et il cite saint Paul, mener une vie calme et paisible, en toute piété et dignité. Il affirme également un messianisme eschatologico-révolutionnaire enthousiaste est absolument étranger au Nouveau Testament. Un messianisme eschatologico-révolutionnaire enthousiaste est absolument étranger au Nouveau Testament. Théologien allemand des lendemains de la Shoah, Joseph Ratzinger est de ceux qui ont réenraciné la pensée chrétienne dans la Première Alliance, luttant résolument contre tous les néo-marcionismes qui ne cessent de surgir. Théologie de l'Alliance, théologie du messianisme aussi, résistant à ce que le cardinal Lustiger a appelé la tentation païenne du christianisme, la tentation de transformer en idéologie politique le dévoilement progressif du mystère de Dieu dans les clairs-obscurs de l'histoire. Comme tous leurs contemporains, Ratzinger et Lustiger ont été à jamais marqués par le nazisme et les grands totalitarismes du XXe siècle, véritable messianisme sécularisé. Théorisé par le marxisme, l'idée d'une eschatologie intramontaine constitue le projet plus ou moins avoué ou conscient de tous les totalitarismes. À vouloir faire advenir le ciel sur la terre, on ne parvient qu'à y organiser l'enfer, variation sur le thème pascalien de « qui fait l'ange fait la bête ». Parmi les idées chrétiennes devenues folles, pour reprendre le mot de Chesterton ou le titre d'un ouvrage récent de Rémi Brague, il y a l'eschatologie dévoyée. Parfois par des chrétiens eux-mêmes, de gauche comme de droite, d'un royaume éternel à même ce monde. À l'inverse, la réserve eschatologique professée par Jésus face aux représentants d'un empire et d'un empereur débordant d'hubris messianique sonne comme un véritable cri de liberté. L'authentique théologie du royaume de Dieu s'inscrit en faux contre toute confusion théologico-politique. De même que les rois en Israël avaient besoin de l'altérité du prophète, les combats politiques de la terre ont besoin de l'altérité d'une perspective eschatologique qui libère de la sacralisation indue des combats temporels, toujours malfaisantes et parfois très gravement. Cette sacralisation était manifeste dans les grands totalitarismes du XXe siècle. Elle n'est pas absente d'un progressisme transformé en religion ou de l'idéologie transhumaniste contemporaine. Même l'écologie peut se frelater en passant d'un souci éthique bienfaisant à une pseudo-religion destructrice du principe d'humanité. Face aux représentants de César, le roi des Juifs se fait, par sa relation au temps et à l'éternité, l'avocat de la véritable liberté. Deuxième partie, rendre témoignage à la vérité. Jean 18, 37. Pilate a manifestement du mal à comprendre que Jésus puisse se situer dans un autre ordre que celui de la politique. Celle-ci peine souvent à ne pas s'enfermer de manière exclusive dans sa propre logique, totalisante au risque de devenir totalitaire. Le préfet romain en revient donc à la seule question qui l'intéresse, « Alors, tu es roi ?» Et Jésus de lui répondre, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » On a beaucoup glosé sur la suite de l'échange. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur déclara, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » L'absence de réponse immédiate de Jésus à la question de Pilate, apparemment incidente, mais en fait décisive, est souvent interprétée comme un refus délibéré du Christ de définir la vérité, une sorte d'adhésion anticipée au relativisme contemporain. Ce qui est frappant, au contraire, c'est que Pilate tourne les talons et sort du prétoire à peine sa question posée, comme s'il avait peur ou ne voulait pas en écouter la réponse. C'est peut-être là que réside surtout l'anticipation de toutes les tentations relativistes de l'histoire. Plus haut, dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus a clairement enseigné « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 31-32. La liberté, ce point fait polémique parmi les auditeurs de Jésus, ne provient pas d'abord ni seulement du fait brut d'appartenir charnellement au peuple de l'Alliance ou de ne pas être formellement esclave, elle procède d'un rapport fondateur et sans cesse approfondi à la vérité. Plutôt encore, dans son ministère public, Jésus avait enseigné « Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » L'expression « faire la vérité » est particulièrement précieuse. Elle manifeste que le rapport à la vérité n'est pas seulement théorique, mais aussi moral. Elle révèle également que la vérité n'est pas de l'ordre de l'évidence, mais passe par une recherche et un discernement. Ultimement, d'ailleurs, la réponse de Jésus à la question de Pilate sur la vérité, c'est sa mort sur la croix. La vérité de son amour qui va jusqu'au bout, la totale sincérité de l'accomplissement de sa mission. Par ailleurs, si Jésus ne définit pas au sens strict la vérité, il dénonce la tentation du mensonge. Vous Vous êtes du diable, c'est lui votre père, et vous cherchez à réaliser les convoitises de votre père. Depuis le commencement, il a été un meurtrier. Il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Quand il dit le mensonge, il le tire de lui-même, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Jean 8, 44. Le diable, celui qui divise, est le père du mensonge. Et comme tel, il est un meurtrier. Voilà qui ouvre des perspectives politiques sur le rapport potentiellement fécond ou destructeur entre vérité, paix et respect de la dignité humaine. Le péché le plus grave dans l'Évangile, le péché inadmissible, le péché qui choisit de s'enfermer en lui-même, c'est le péché contre l'esprit. Le refus de la vérité pourtant reconnue comme telle, le choix délibéré du mensonge. On sait depuis toujours que les régimes autoritaires ont, si j'ose dire, un problème avec la vérité. N'apprécient ni l'indépendance universitaire ou académique, ni la liberté de la presse. L'arbitraire du nominalisme théorisé constitue une des pierres, non pas de fondation, mais de destruction d'une société pleinement digne de la personne humaine. Dans leur enseignement, Jésus et l'Église dans son sillage ne prônent pas l'imposition d'une vérité religieuse qui pourrait être comprise éventuellement à juste titre comme un arbitraire, voire comme l'arbitraire par excellence, mais introduisent un moyen terme libérateur pour la recherche spirituelle et pour la justesse morale. La vérité mène à Dieu, mais ne se confond pas avec lui. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. La recherche patiente, rigoureuse, modeste de la vérité ouvre un chemin vers une lumière toujours plus vive et profonde que ce qu'on peut en percevoir ou formuler. Le diable a été un meurtrier, il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. L'absence de sincérité, de vérité intérieure, conduit à se désintéresser de la profondeur du réel, la vérité objective, et mène ultimement à la mort de soi, la mort des autres, la mort de la société. C'est à ce niveau-là que se situent certains débats éthiques contemporains. Nier, par exemple, de façon délibérée, acharnée, que la naissance d'un enfant procède d'une manière ou d'une autre, fût-ce par éprouvette interposée, de la rencontre d'un homme et d'une femme, quoi qu'il en soit des aménagements juridiques de cette réalité que l'on puisse imaginer, c'est, qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou pas, faire le lit de la violence. Semer le vent du mensonge pour récolter la tempête de la violence anthropologique et sociale. Ainsi, l'Évangile nous aide-t-il à comprendre que la si sévère crise contemporaine du politique est à bien des égards une crise de notre rapport à la vérité, une crise de la rationalité. L'encyclique Fides et Ratio du pape Jean-Paul II en 1998, qu'on dit souvent écrite à quatre mains avec le cardinal Ratzinger, prenait cette crise de la rationalité à bras le corps. Non pas pour dénoncer quelque erreur que ce soit d'abord, mais pour rendre le goût de chercher la vérité, pour redonner confiance dans les capacités de la raison humaine. Les écrits de sagesse, à même le Premier Testament, constituent une rencontre à jamais décisive entre la recherche philosophique et la révélation divine. La foi et la raison ont besoin l'une de l'autre. La première, pour ne pas en rester à l'étroitesse d'une expérience seulement singulière, la seconde, pour ne pas s'enfermer dans l'abstraction exclusivement théorique qui flotterait au-dessus du drame de la vie et de la mort et de l'exigence d'engagement et de choix éthiques. La confrontation au mystère concret de la souffrance humaine, cristallisée dans le mystère de la croix, fait passer du crépuscule, de l'universel, d'une raison délibérément coupée du réel, qui pourtant la porte, à l'aurore, sans cesse renaissante, d'une raison qui accepte de se laisser mesurer par plus grand qu'elle-même. Grand avocat de la raison, Joseph Ratzinger écrit « La politique est le lieu de la raison. Plus précisément, elle n'est pas le lieu d'une raison technique et calculatrice seulement, mais encore morale, puisque la fin de l'État, et donc la fin dernière de toute politique, est de nature morale, je veux dire la paix et la justice. » La raison technique, dans son ordre même, manque ses objectifs quand elle se coupe de sa profondeur éthique. Une raison qui ne sait reconnaître rien d'autre qu'elle-même et les certitudes empiriques se paralyse et se dissout, écrit encore le futur Benoît XVI. La liberté devient une illusion, éventuellement meurtrière, quand elle renonce au beau combat, à la recherche vivifiante de la vérité. Troisième partie, j'en viens enfin à la formule titre, « Si tu ne l'avais reçu d'en haut, Jean 19, 11. » Jésus, pédagogue jusque dans sa passion, suscite, par ses paroles, comme par ses silences, « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler », dit l'Ecclésiaste, chez l'honnête homme qu'est Pilate, des objections successives qui lui permettent d'approfondir toujours davantage son ultime enseignement. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. » Juste avant, le préfet romain lui avait demandé « D'où es-tu ?» Question à la fois triviale, géographique et spirituelle, métaphysique. Jésus lui renvoie la question en l'interrogeant sur sa légitimité à lui, sur l'origine et la limite de son autorité. On a là comme une anticipation de la fameuse question 68arde, mais prise dans toute sa profondeur, « D'où parles-tu ?» Ce qui est intéressant, c'est que Jésus lui-même, tout au long de son ministère public, tout en révélant et assumant son autorité de Fils de Dieu, « Je suis la lumière du monde », Jean 8, 12, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jean 14, 6, renvoie explicitement à plus grand que lui-même. Je pense en particulier à son affirmation particulièrement paradoxale, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé », Jean 12, 44. La foi trinitaire, qui introduit de l'altérité dans l'unité divine, délivre du paradigme de l'auto-fondation de soi. L'autorité divine de Jésus elle-même est une autorité reçue. Ce qui lui permet de révéler à Pilate, de façon véritablement salvifique, que toute autorité est reçue, dépendante de ce qui la précède et qui la porte. Affirmer l'origine divine de toute autorité humaine constitue une manière de la relativiser, mais aussi de l'accréditer. « Que chacun soit soumis aux autorités supérieures », écrit saint Paul dans la lettre aux Romains, « car il n'y a d'autorité qu'en dépendance de Dieu, et celles qui existent sont établies sous la dépendance de Dieu. » Joseph Ratzinger commente, « Ainsi, s'opposer à l'autorité revient à s'opposer à l'ordre établi par Dieu. Il faut donc se soumettre, non seulement par contrainte, mais en raison de sa propre conscience. » L'affirmation de saint Paul dans cette partie parénétique de son traité le plus achevé, que j'ai déjà cité plusieurs fois, constitue le fondement de la doctrine chrétienne de la reconnaissance des autorités civiles et de la loyauté spontanée à leur égard. Ce légitimisme s'exprime notamment dans la prière à leur intention, également recommandée par saint Paul. J'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cela dit, parce que tout est dialectique, paradoxal, pour être authentiquement humain et chrétien, le légitimisme a priori à l'égard des autorités civiles a besoin de l'instance régulatrice, vérificatrice et éventuellement correctrice de la conscience. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, déclarent Pierre et les apôtres devant le Grand Conseil. À ce stade des Actes des apôtres, cette obéissance concerne d'abord la foi, est plus dogmatique que morale. Mais par extension, dans le sillage du Premier Testament, on peut penser en particulier au livre des martyrs d'Israël, au livre des Maccabées, elle ouvre le champ de l'indispensable interrogation, critique, voire résistance de la conscience à l'égard des injustices ou de la violence possible de l'autorité politique dévoyée. L'origine divine du pouvoir humain a souvent été mentionnée dans les documents catholiques officiels, notamment pontificaux, réfléchissant au statut du politique ou s'interrogeant sur l'attitude à adopter face à tel conflit ou telle difficulté. Elle ne l'est plus jamais depuis plusieurs décennies. Comme si l'Église, en ce temps, ne parvenait plus à assumer les affirmations de saint Paul et de Jésus lui-même, dans le contexte d'une sécularisation galopante et d'une laïcité, parfois durcie en idéologie antireligieuse. Le pape Léon XIII, au long pontificat d'un quart de siècle, reste dans l'histoire comme le fondateur de la doctrine sociale de l'Église, avec la publication de Rerum Novarum en 1891. On sait qu'il fut l'inspirateur du fameux toast d'Alger du cardinal Lavigerie le 18 novembre 1890, acte fondateur du ralliement des catholiques à la République. Bref, c'est, pourrait-on dire aujourd'hui, un pape d'ouverture. Dans son encyclique « Au milieu des sollicitudes » « Tra le sollecitudini » du 16 février 1892, préparé par le toast d'Alger et adressé aux Français, il n'hésite pourtant pas à faire référence à l'origine divine du pouvoir humain. Je le cite, « Dans toute hypothèse, le pouvoir civil considéré comme tel est de Dieu et toujours de Dieu, car, référence à saint Paul, il n'y a point de pouvoir si ce n'est de Dieu. » Le pape énonce les conséquences historiques de l'affirmation de saint Paul. Je le cite, « Par là s'explique d'elle-même la sagesse de l'Église dans le maintien de ses relations avec les nombreux gouvernements qui se sont succédés en France en moins d'un siècle. » Petit trait d'ironie pontificale sur la fin de l'Empire, la Révolution de 1830, 1848, la Commune de 70. « Avec les nouveaux gouvernements qui se sont succédés en France en moins d'un siècle et jamais sans produire des secousses violentes et profondes. Une telle attitude est la plus sûre et la plus salutaire ligne de conduite pour tous les Français dans leurs relations civiles avec la République, qui est le gouvernement actuel de leur nation. Loin d'eux, ces dissentiments politiques qui les divisent, tous leurs efforts doivent se combiner pour conserver ou relever la grandeur morale de leur patrie. » En même temps, Léon XIII ne minimise pas les raisons de malaise, voire de conflit, entre les catholiques et la Troisième République naissante ou encore jeune. Je le cite, « Cette République, fait-on remarquer, est animée de sentiments si antichrétiens que les hommes honnêtes, et beaucoup plus les catholiques, ne pourraient consciencieusement l'accepter. Voilà surtout ce qui a donné naissance aux dissentiments et les a aggravés. » Le pape thomiste, le pape d'Eterni Patris, ouvre un chemin de résolution du conflit entre origine divine du pouvoir et dévoiement de ce pouvoir en introduisant une distinction. On eût évité ces regrettables divergences, écrit Léon XIII, si l'on avait su tenir soigneusement compte de la distinction considérable qu'il y a entre pouvoir constitué et législation. La législation diffère à tel point des pouvoirs politiques et de leurs formes que sous le régime dont la forme est la plus excellente, la législation peut être détestable, tandis qu'à l'opposé, sous le régime dont la forme est la plus imparfaite, peut se rencontrer une excellente législation. Le pouvoir constitué doit toujours être respecté, mais la législation peut, voire doit, être interrogée ou dénoncée. Le sérieux même du pouvoir humain, en tant qu'ultimement fondé en Dieu, est honoré par le discernement critique de la conscience par rapport aux lois qu'il édicte. Ce serait manquer de respect et de considération pour le pouvoir comme tel que d'accepter qu'il se dégrade en faisant le lit de l'idolâtrie de l'État. Autre formule de Léon XIII qui reprend l'indispensable catégorie biblique d'idolâtrie que j'ai déjà mentionnée. À l'époque de Léon XIII, c'est sur le statut des cultes que portait le conflit entre l'Église catholique et la République française. Le ralliement, l'union sacrée de la guerre de 14, puis les accords des années 20 entre la France et le Saint-Siège, je me permets au passage de dire que le centenaire de la loi de 1905 a été vraiment honoré, avec notamment l'implication de votre maison. Peut-être faudrait-il imaginer quelque chose du même ordre pour le centenaire des accords entre la France et le Saint-Siège des années 20 et suivantes, qui sont en fait, du point de vue législatif, en tout cas dans la vie concrète, plus décisif encore pour la vie concrète de l'Église catholique. Je ferme cette parenthèse et cette suggestion. Le ralliement, l'union sacrée, puis les accords des années 20 entre la France et le Saint-Siège, et bien sûr la régulation du Conseil d'État, qui s'est encore exercée il y a quelques semaines, ont progressivement mis en place un cadre pacificateur. Aujourd'hui, les questions qui se posent sont plutôt d'ordre éthique et anthropologique. Elles interrogent, face à la loi, la conscience non seulement des chrétiens ou des croyants, mais aussi de tous les citoyens attentifs à l'enracinement moral de la paix sociale. Voilà pourquoi le dialogue a été facile et fécond entre Jürgen Habermas et Joseph Ratzinger le 19 janvier 2004 à l'Académie de Bavière à propos de ce qui assure la cohésion du monde, les bases morales et prépolitiques de l'État. L'un et l'autre ont reconnu que, c'est Ratzinger qui parle, la raison doit être renvoyée à ses limites et apprendre à se rendre disponible pour écouter les grandes traditions religieuses de l'humanité. Il y a là comme une formulation adaptée à la mentalité contemporaine de l'affirmation de Jésus face à Pilate sur l'origine ultimement divine de son pouvoir. D'ailleurs, la métaphore évangélique d'en haut, « Tu n'aurais aucun pouvoir si tu ne l'avais reçu d'en haut », destinée avec une révérence toute juive à désigner Dieu sans profaner son saint nom, donne de la ductilité à l'affirmation du Christ. Le pouvoir n'est légitime que s'il reconnaît délibérément et assume pleinement ses limites. Une expression importante de cette reconnaissance et de cette assomption réside dans la manière avec laquelle le pouvoir se met à l'écoute de ceux qui le précèdent, la nature, l'environnement, mais surtout la nature humaine, l'histoire, et une des cristallisations de leur mystère dans les traditions religieuses. Le décalogue, par exemple, suggère Ratzinger, devrait demeurer une source d'inspiration durable et salutaire pour les sociétés modernes et postmodernes. Le cardinal Ratzinger détecte les points d'appui prépolitiques encore disponibles pour les États. Je le cite, « L'époque moderne a formulé de façon ferme quelques éléments normatifs grâce à différentes déclarations des droits de l'homme, soustraits au jeu de la majorité. » Reste, explique-t-il, que le dénigrement contemporain du droit naturel, considéré communément comme le faux-né désuet du conservatisme catholique, fragilise la possibilité d'un consensus anthropologique fondateur. Comme l'écrit encore l'alors futur Benoît XVI, l'idée du droit naturel présuppose le concept de nature où sont liées la nature et la raison, où la nature elle-même est raisonnable. Ainsi donc, affirmer que tout pouvoir vient de Dieu, ce n'est pas céder aux sirènes maléfiques et dépassées du théologico-politique. Comme l'écrit Émilie Tardivelle dans un bel essai publié en 2015, « Tout pouvoir vient de Dieu, un paradoxe chrétien », s'il y a une politéia chrétienne, une manière spécifiquement chrétienne de vivre dans la cité, il n'y a pas pour autant de res publica chrétienne, c'est-à-dire de constitution politique proprement chrétienne, avec son mode spécifique de gouvernement. Affirmer que le pouvoir vient d'en haut, de plus loin et de plus profond que lui-même, le délivre de la tentation auto-idolatrique, de l'illusion meurtrière de se prendre pour Dieu. Réserve eschatologique, exigence permanente d'honorer le travail de la raison et de chercher la vérité, et affirmation du caractère toujours second du pouvoir par rapport à tout ce qui le précède et le fonde, se conjuguent pour repousser la tentation permanente de la tyrannie et promouvoir l'authentique bien commun. Les chrétiens ne devraient pas rougir de cette affirmation de l'Évangile. Avec tous les dépositaires de la tradition biblique, ils ont à rendre témoignage à l'autre de l'instance politique, qui lui permet de s'exercer en toute justice. C'est ainsi que se poursuit et se poursuivra le dialogue salutaire entre les prophètes et les rois. L'affirmation de l'origine ultimement divine du pouvoir n'est pas une manière de le cléricaliser ou de l'instrumentaliser, mais plutôt de l'accréditer dans son ordre en résistant à la tentation de le sacraliser. Je conclus par quelques remarques placées sous le titre « Mystique républicaine et sagesse démocratique ». Je ne suis pas sûr que le salut de notre pays en crise passe par une exaltation de la mystique républicaine, qui risque toujours, en réalité, de résonner en vain comme une cymbale retentissante, pour citer à nouveau saint Paul. La dialectique de la mystique et de la politique, théorisée par le républicain catholique qu'était Charles Péguy, nous engage dans le sillage de Pascal, à respecter la distinction des ordres, c'est-à-dire aussi leur possible articulation. Il nous faut aujourd'hui moins de mystique ou de pseudo-mystique ou d'idolâtrie républicaine que de sagesse, de modestie, de sérieux, de rigueur démocratique. Une forme d'enthousiasme patriotique, européen, humanitaire, écologique, peut être légitime et porté comme une sorte de mystique mineure, le zèle des responsables politiques. Mais aujourd'hui comme hier, le Médenagan, le refus de la démesure et le sens des limites demeurent les conditions de possibilité de la justice et de la paix. Nous avons besoin d'hommes et de femmes providentiels, c'est-à-dire ajusté aux besoins et aux dynamiques de l'histoire, pour reprendre un beau thème stoïcien et chrétien. Mais nous devons nous garder des pseudo-messies qui ne cessent de vouloir imposer leur hubris pour le malheur de tous. Les communautés religieuses, comme telles, ne constituent donc pas une menace pour l'exercice juste de la responsabilité politique. Au contraire, à condition, bien sûr, que soit respectée la distinction des ordres. Dans son discours au Collège des Bernardins, le 10 avril 2018, le président Emmanuel Macron invitait les catholiques à être actifs, voire plus actifs, dans la cité, à condition de ne pas être injonctifs. Ce terme est légitime s'il vise à exprimer la distinction du spirituel et du temporel. Mais il ne l'est point s'il cherche à protéger le politique de toute instance réellement interrogatrice et régulatrice autre que lui-même. Les princes de ce monde peinent toujours à saisir que leur pouvoir a plus à perdre qu'à gagner en s'isolant de ce qui le fonde et le dépasse. Trop souvent s'instaure un débat faussé sur la concurrence des appartenances et des lois citoyennes et religieuses. C'est passé à nouveau à côté de l'indispensable distinction des ordres. L'affirmation péremptoire, par exemple, que la loi civile doit l'emporter en toutes circonstances sur tout le reste, fait fi des droits et des devoirs de la conscience, des croyants ou non, qui, en certaines circonstances, enjoint de résister à des lois injustes. La loi juste n'a pas à redouter les droits de la conscience, puisque ceux-ci, en fin de compte, font partie de son propre propos de justice. Retournons au prétoire. L'homme qui tient tête et cœur à Pilate est condamné injustement à partir de faux témoignages. Flagellé, moqué, couronné d'épines pour tourner en dérision sa royauté, qui pourtant n'est pas de ce monde, il est présenté à la foule par le préfet romain avec une formule qu'on pourrait qualifier paradoxalement de prophétique. Voici l'homme. En son humanité blessée, Jésus révèle en effet l'homme à lui-même. Dans sa vulnérabilité, qui ne détruit pas, mais au contraire révèle sa véritable dignité. Face au pouvoir romain, Jésus ne se fait pas l'avocat des droits de Dieu sur le mode de la puissance ou de la revendication politique, mais en se faisant aussi et d'abord l'avocat des droits de l'homme le plus fragile en particulier. Affirmer aujourd'hui que tout pouvoir est reçu d'en haut, c'est défendre la dignité fondatrice pour toute société des plus bas, quand sa kénose, le Très-Haut, est venu chercher et exalter. Les deux infinis dissymétriques de la gloire et de la souffrance n'en finissent pas de rappeler aux politiques sa bienheureuse finitude, la modestie de sa position qui devrait être le point de départ de sa véritable ambition. Merci de votre attention.